et par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités, édition du 14 septembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. En manchette aujourd'hui, farouche critique du maire de Montréal et candidat d'équipe CODER. Dr. May Griffith devient titulaire de la chaire Caroline Durand de l'Université de Montréal. Portes ouvertes, Estrie aide sous tous ses angles. Et on parlera aussi de la deuxième édition du Festival international du film sur le handicap qui s'ouvre le 15 septembre. En entrevue, j'aurai le plaisir d'interviewer Tommy Bédard, directeur général Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, qui nous parle d'un nouveau service de garde pour enfants de plus de 12 ans avec handicap et TSA. Et aussi une entrevue avec Lola Noël, directrice générale de La Fenêtre, centre d'immersion d'art à Trois-Rivières. Farouche critique du maire de Montréal et candidat d'équipe CODER, c'est dans la presse.ca, Pierre-André Normandin qui signe le texte militant pour les droits des personnes à mobilité réduite et instigateur d'un recours collectif contre la ville de Montréal. Steven Laperrière et Linda Gauthier seront candidats d'équipe CODER aux élections municipales de cet automne. Deux farouches critiques de l'administration CODER qui ont récemment intenté un recours collectif qui pourrait coûter 1,5 milliard de dollars à la Ville de Montréal ont décidé de se joindre à son parti politique pour briguer les suffrages le 5 novembre. Militant pour la cause des personnes à mobilité réduite, Linda Gauthier et Steven Laperrière ont longtemps talonné l'administration CODER pour dénoncer l'absence d'accessibilité universelle dans la métropole. Ils porteront désormais sa bannière, tous deux ayant décidé de se présenter aux élections municipales. Linda Gauthier brigue le poste de conseillère de ville du district de Lorimier dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Steven Laperrière se présente pour sa part comme conseiller d'arrondissement dans le district Cecil P. Newman dans la Salle. Présente pratiquement à tous les conseils municipaux pour critiquer l'inaction de la Ville de Montréal, Linda Gauthier reconnaît avoir longtemps varlopé Denis Coderre. Et même si elle intègre son parti, elle assure qu'elle compte bien continuer de soulever la question devant lui. « Je suis une femme de conviction et je les amène à l'hôtel de ville », a-t-elle dit. Linda Gauthier s'attend à ce que certaines personnes proches du RAPLIC lui en veuillent de se joindre à l'équipe CODER. « Mais je considère que je suis pas mal plus en mesure d'influencer que si j'étais restée au RAPLIC », a-t-elle expliqué. C'est sûr que des gens ne vont pas comprendre, mais avec le temps, ils vont voir qu'on va afficher le même dévouement et on garde les mêmes idéaux, a dit Steven Laperrière. On est les mêmes qu'hier, le combat continue, c'est juste qu'il va se faire de l'intérieur, a ajouté M. Laperrière. Pas juste là pour faire plaisir. Prenant la balle au bon, Denis Coderre a déclaré qu'il n'avait pas peur de s'entourer de têtes fortes. Les gens ne sont pas juste là pour faire plaisir. Il compte bien profiter de l'expertise de ces deux nouvelles recrues pour améliorer les efforts de la ville en matière d'accessibilité universelle. Dr. May Griffith, une pionnière de la médecine régénérative de l'œil, devient titulaire de la chaire Caroline Durand de l'Université de Montréal. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal est fier d'annoncer que l'une des chercheuses du Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr. May Griffith, PhD, une pionnière de la médecine régénérative de l'œil, est la toute nouvelle titulaire de la chaire de la Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil de l'Université de Montréal. May Griffith se spécialise dans la mise au point de matériaux biomimétiques destinés à la santé de la vision. En 2007, en collaboration avec un chirurgien suédois, l'équipe canado-suédoise de Dr. Griffith réussissait une première mondiale. La régénération du tissu cornéen humain malade et de nerfs endommagés au moyen d'implants sans cellules. 10 personnes ont subi la procédure et 4 ans après l'opération, tous les implants étaient stables. La méthode mise au point repose sur l'utilisation de nouveaux matériaux biomimétiques qui permettent de cultiver les tissus en imitant de très près les mécanismes de la nature et en reproduisant artificiellement des propriétés essentielles d'un ou plusieurs systèmes biologiques. La chaire Fondation Caroline Durand de l'Université de Montréal permettra à May Griffith d'entamer une nouvelle phase de travaux. Ils seront centrés sur la réparation de cornées endommagées par des traumatismes. May Griffith souhaite saluer la grande collaboration dans ses recherches avec plusieurs scientifiques et tout particulièrement Dr. Isabelle Brunette de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et Dr. Bruce Jackson, Université d'Ottawa. Je m'entretiens avec Tommy Bédard, directeur général Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Bédard.
Bonjour.
Alors, vous nous parlez en direct de Rouyn-Noranda?
Exactement, oui.
Oui, depuis le 11 septembre, alors c'est tout récent, vous offrez un service de garde aux enfants à besoins particuliers âgés de plus de 12 ans. Qu'est-ce qui a motivé l'ajout de ce service?
En fait, quand c'est un besoin de nos membres, de nos membres parents qui fait en sorte que avec le système scolaire, les lois n'obligent aucunement les commissions scolaires, les institutions à offrir un service de garde à un enfant de 12 ans et plus. Un enfant de 12 ans et plus n'est pas nécessairement en âge d'aller au secondaire. Donc, les enfants à besoins particuliers se retrouvaient sans service de garde. Des parents se retrouvaient dans une impasse incroyable essayant de conjuguer horaire travail et tout. Donc, rien ne fonctionnait. Donc, plusieurs appels qu'on a reçus, ça fait un an environ qu'on prépare le projet. Donc, j'avais au moins 6 parents qui étaient dans un besoin extrême et on parle seulement avec la ville de Rouyn-Noranda.
Alors, ce sont pour les enfants de plus de 12 ans avec handicap et TSA, donc les troubles du spectre autistique, ce service de garde, et pour cette clientèle d'enfants âgés de plus de 12 ans, ça va jusqu'à quel âge?
On ne s'est pas encore donné de barème d'âge. En fin de compte, nous, notre mission, c'est d'aider les membres. Donc, si on se rend compte qu'on a des enfants plus élevés, on va simplement faire des sous-groupes.
OK. Simplement. Parce qu'il faut dire que l'école pour ces enfants-là finit très tôt, à 14h30.
Oui, exactement. C'était la problématique de cette école. La plupart des enfants qui fréquentent justement cette école-là. Les cours débutent à 9h le matin et se terminent à 14h30. Donc,
c'est compliqué pour les parents qui travaillent à temps plein, là. Ils ne peuvent pas arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant nécessairement.
Exactement. Bien, c'est ce qui arrive en fin de compte. C'est que ce qui est arrivé dans le passé, c'est qu'un des deux parents était contraint à avoir des heures réduites ou à ne pas travailler justement pour réussir à conjuguer le tout.
Oui, oui. Puis ça peut aussi créer de l'isolement, des problèmes de santé mentale,
oui,
de dépression même.
C'est ce qu'on vit, c'est ce que j'ai mentionné dernièrement. Oui, les parents sont à bout de souffle. Étant sans ressources, sans service, les parents s'excluent en fin de compte de la société, s'isolent. Peu de communication, oui, problèmes de santé mentale, de dépression et tout. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui se trouvent dans cette situation-là, dans la région, pas nécessairement de situation de dépression, je veux dire avec des enfants qui ont des handicaps ou qui souffrent de troubles de spectre autistique et qui n'ont pas de recours et qui disent « Alléluia, il y a maintenant un service de garde pour nous ».
Ici à Rouyn-Noranda, j'ai présentement 6 enfants, mais vraiment, on est en début de projet. On ne se lance que pour les enfants de TSA.
Et ah oui, d'accord.
On vient de le dire, c'est des gens aussi qui vont s'exclure de la société, si on veut. Donc, les gens ne sont peut-être pas encore au courant qu'on existe.
Oui, parce que c'est tout nouveau.
Tout à fait.
Et vous avez une dizaine de places de disponibles.
Nos locaux nous permettent d'avoir 10 enfants.
Okay,
on a plus de 10 enfants, on va faire des pieds et des mains pour avoir d'autres locaux.
Mm-hmm. Et quel est votre plus grand défi en ce moment? C'est de faire connaître votre service de garde et puis d'avoir, j'imagine, du financement pour que ça soit encore plus accessible à encore plus d'enfants.
Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que le financement, c'est l'honneur de la guerre, comme on peut le dire. Mm-hmm. Si on n'a pas d'aide gouvernementale ou quoi que ce soit, on ne pourra pas assurer la pérennité de notre service. Ça, c'est sûr, 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 sûr.
Mm-hmm.
Donc, pour se faire connaître et être connu, on travaille très fort avec la commission scolaire qui nous aide beaucoup de la région. Ensuite, oui, on travaille présentement au financement, à la subvention, car présentement, notre projet ne pourra pas faire l'année complète si on n'a pas de soutien.
Et ça coûte combien par enfant par jour?
Pour un service régulier, on demande 25 $ par jour.
Qui paye en ce moment ces 25 $? Les parents?
Les parents, oui. Certains ont une subvention du CRDI, CRLM. Donc, oui, ça les aide un peu, mais sinon, c'est 25 $ pour un service normal. Si on parle de pédagogique, on monte à 40 $ et on a des journées de concertation qui sont des demi-journées. Donc, on demande 35 $, ce qui couvre pas, en fin de compte, les salaires et l'allocation et tout le fonctionnement.
Mm-hmm. Alors,
donc, on est déficitaire au départ.
Oui, oui. Le gouvernement dit qu'il n'a pas les budgets, mais vous ne les avez pas plus.
Exactement. On ne les a pas plus. On offre un service à une clientèle particulière, à besoin particulier. Donc, on a besoin d'une subvention et d'une aide particulière, si mm-hmm. on peut dire ainsi.
Alors, j'espère que vous serez entendu. Est-ce que vous avez le défi, je ne sais pas, l'intention d'ouvrir d'autres services de garde dans cette région qui est immense, l'Abitibi et le Témiscamingue?
Oui. Oui, tout à fait. Notre mission est régionale. Donc, on démarre nos projets ici à Rouyn-Noranda, car notre bureau est à Rouyn-Noranda, et ensuite, on exporte les projets. Donc, les projets, c'est sûr qu'ils sont demandés. Maintenant, c'est une fois que le service fonctionne, on peut maintenant, si on peut dire ainsi, vendre le produit auprès de partenaires éventuels.
Écoute, que doivent faire les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à votre service de garde? Parce que si j'ai bien compris, il y a 6 enfants qui fréquentent le service de garde, donc il resterait 4 places pour l'instant?
Exactement, oui. Simplement nous contacter par notre page Facebook, par notre adresse courriel, par téléphone. Aller sur notre page Facebook qui est la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue. Les informations y sont. Puis c'est d'une simplicité.
Alors, merci beaucoup, Tommy Bédard, directeur général, d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance avec ce projet extraordinaire. Tommy Bédard de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue.
Merci.
Au plaisir. Pour la toute première fois de son histoire, Estrie Aide ouvre ses portes au public le samedi 23 septembre afin de faire découvrir à un plus grand nombre de gens sa mission et les coulisses de ses deux bâtiments. Ils sont 55 employés et 121 bénévoles. En 2016, ils ont accueilli plus de 200 000 clients et vendu 585 311 objets. Oui, Estrie Aide est une entreprise d'économie sociale qui permet à des gens moins fortunés d'acheter des objets recyclés à bas prix offerts par la population, mais c'est beaucoup plus que cela. Estrie Aide, c'est aussi des ateliers de tri, de réparation et de valorisation, en plus d'être un plateau de travail en déficience intellectuelle. C'est une vocation tant sociale, économique qu'environnementale. D'ailleurs, en don pour l'année 2016, Estrie Aide a reçu 1 270 tonnes de matière. Sur le lot, 86 % a été remis sur le marché ou envoyé au recyclage. Avec la journée porte ouverte, on veut faire découvrir la mission et les gens derrière l'entreprise cherbrookoise. On souhaite montrer et expliquer à la population tout le travail qui se réalise au quotidien par nos équipes, explique Anthony Daigle, coordonnateur en environnement chez Estrie Aide. Avant que les articles se retrouvent en vente dans le magasin, il y a tout un processus et plusieurs enjeux à tenir compte. L'idée est donc d'amener la population cherbrookoise à découvrir notre nouvelle bâtisse acquise au mois de janvier et à mieux comprendre l'importance de notre vocation sociale, environnementale et économique. Avec sa nouvelle bâtisse, voisin de leur premier édifice, Estrie Aide a doublé sa superficie, passant de 25 000 pieds carrés à 50 000 pieds carrés. On commençait vraiment à être à l'étroit avec cet agrandissement. Nous sommes en mesure de recevoir plus de dons, souligne M. Daigle, qui précise du même coup que l'entreprise répond à une clientèle variée. Les portes ouvertes auront lieu de 10h à 14h le 23 septembre, rue Wellington Sud. Le programme Biblio Aidant, lancé dans la région. Destiné aux proches aidants, le service d'information Biblio Aidant est maintenant accessible dans 5 bibliothèques publiques des MRC d'Arthabasca et de l'Érable situées à Davaluyville, Kings and Falls, Saint-Valère, Saint-Ferdinand et Princeville. Le réseau Biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie a d'ailleurs procédé au lancement du programme destiné dans 20 bibliothèques du Centre du Québec lors d'une conférence de presse tenue à la bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville. Le service offre gratuitement 15 cahiers thématiques qui incluent une liste d'organismes, de sites web pertinents et de suggestions de lecture afin d'apporter du soutien et de renseigner les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Nos bibliothèques publiques touchent tous les citoyens, autant les enfants, les adultes que les personnes âgées. Comme on peut être aidant naturel à tout âge, les bibliothèques sont un endroit tout désigné pour offrir ce type d'informations justes et de qualité, a-t-elle indiqué. La coordonnatrice de l'Association pour les personnes proches aidantes de Bécancour, Nicolette Yamaska, Véronique Merger, se réjouit de la mise en place de ce programme dans les bibliothèques. Plus nos proches aidants seront informés, mieux ils seront en mesure de remplir leur rôle. Il prodigue jusqu'à 75 % des soins aux personnes aînées. La société serait mal prise si elle ne pouvait compter sur eux. La directrice d'Appui Centre du Québec, Jannick Ouimette, abonde dans le même sens, rappelant qu'un peu plus de 20 % des personnes âgées avaient besoin d'aide au quotidien et que les personnes âgées entre 45 et 54 ans étaient les plus sollicitées dans le rôle de proche aidant. Les gens ont de la difficulté à se reconnaître comme proche aidant et nous apprécions que le réseau Biblio via les bibliothèques publiques mettent aussi la main à la pâte, ils ont besoin de cette information. Le détail du programme Biblio aidant peut être consulté en ligne biblioaidant.ca. Alors, j'ai le plaisir de parler avec Lola Noël, directrice générale La Fenêtre, Centre d'immersion aux arts à Trois-Rivières. Bonjour, Madame Noël.
Bonjour.
Alors, premièrement, qu'est-ce que La Fenêtre?
Alors, La Fenêtre, c'est un organisme sans but lucratif dont la première mission est d'offrir des ateliers d'art à des personnes ayant des limitations fonctionnelles, que celles-ci soient physiques ou intellectuelles. Nous, on reçoit des personnes ayant tout type de limitations, que ce soit la paralysie cérébrale, d'être non-voyant, peu importe, là, on ne fait pas de catégorie, on reçoit tout le monde.
Aucune discrimination?
Aucune.
Alors, Madame Noël, parlez-nous plus en détail des ateliers, des cours, des services que vous offrez chez vous.
Alors, on a 5 ateliers majeurs, le chant choral, le théâtre, la peinture, les arts plastiques et le travail d'hiver. Ça, ce sont nos ateliers réguliers qui ont lieu à chaque semaine à raison normalement de 2 heures par cours. À cela s'ajoute ce que nous, on appelle les multi-arts, c'est-à-dire qu'à la demande des participants, on peut avoir des mini-sessions de 4 cours mm-hmm. qui s'échelonnent sur un mois. Et là, ça peut être comme n'importe quoi, là, de la poésie, de la poterie, des émaux sur cuivre, la sculpture, tout ce que vous pouvez imaginer. Je me plais à dire que le seul art qu'on pratique pas ici, c'est l'architecture, non pas parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'a pas la place.
Alors, ça vous prendrait plus de fenêtres?
plus d'espace, surtout.
Oui, oui. Mais je faisais un jeu de mots avec le nom
oui,
de votre organisme.
Oui, tout à fait.
Alors, Madame Noël, à La Fenêtre, vous avez aussi des artistes qui donnent les ateliers. Ce sont les artistes, finalement, qui enseignent. Le prof de chant qui enseigne, c'est une chanteuse. La professeure de peinture, c'est une peintre. Est-ce qu'ils sont aussi bons pour enseigner la théorie de leur pratique?
Je vous dirais que... À La Fenêtre, les professeurs ici, ils ont ce que j'appelle le triple profil. Dans un premier temps, comme vous dites, ils sont artistes dans leur médium, c'est-à-dire que la chanteuse, oui, c'est-à-dire que le professeur de chant, oui, elle est chanteuse et donne des spectacles et a un disque. Le professeur de peinture est un artiste peintre qui a déjà exposé et qui expose encore dans les galeries, etc., etc. À ça, elles doivent aussi avoir un brevet d'enseignement. Alors, elles ont un brevet d'enseignement et à ça, elles doivent aussi avoir des compétences, pas nécessairement une expérience quand on l'engage, quoique c'est toujours utile, mais des compétences pour être capable de travailler avec des personnes ayant des limitations.
Alors, ce sont vraiment des perles rares. Vous les avez trouvées?
On les a trouvés et on essaie de les garder le plus longtemps possible. Notre professeur de peinture, entre autres, est là depuis le début. Ça va faire 20 ans qu'on est en opération l'année prochaine.
Ah, mais c'est bon signe. Ça veut dire que ça va bien.
Oui.
Et vous avez une autre particularité. Vous l'avez mentionné en début d'entrevue. Vous ne séparez pas les participants selon leur handicap. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Parce que, de un, on ne veut pas créer de ghetto. Et de deux, on est convaincus, nous, que chaque participant ou participante a quelque chose à apporter. Mmh. Peu importe son handicap, peu importe ses difficultés, elle peut, et c'est ça qu'on réalise dans les cours, c'est que chacun s'entraîne de sa façon, dans le respect le plus total, et c'est ça qui est merveilleux.
Et il y a combien de personnes par cours?
Par cours, ça peut varier entre 12 et, Je vous dirais qu'on est au niveau du cours de chant, on est un petit peu dépassé notre barème cette année parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Normalement, on n'en prend pas plus que 18, mais là, on est rendu à 19.
Ah bon, avec une chorale, ça va faire encore plus de belles voix.
Oui.
Et Mme Noël, si on veut s'inscrire à l'un des ateliers, comment ça fonctionne et puis combien ça coûte?
Ça varie selon les cours que vous prenez, parce que dans certains cours, comme en peinture, par exemple, la personne doit acheter son matériel. Mais en moyenne, c'est 100 $ pour une session. Et quand on parle de session, on parle, par exemple, de septembre à décembre et de janvier à juin, comme les horaires des écoles, si vous voulez. Mm-hmm. Et pour s'inscrire, c'est pas compliqué. Soit on se présente à la fenêtre, soit au téléphone au 819-697-2787. Ça va nous faire plaisir. Demandez Marilyn et ça va nous faire plaisir de
bon,
vous accueillir.
On ne se présente pas à la porte, on se présente à la fenêtre.
Ah, c'est ça!
Alors, c'est ça, c'est plein de jeux de mots jusqu'à un certain point, facile à faire, mais très agréable. J'avais envie de dire merci de nous avoir ouvert votre fenêtre, Mme Noël. Vous êtes à Trois-Rivières et vous avez un site Internet, lafenêtre3r.org.
C'est bien ça.
Ben, je vous souhaite une très belle saison et au plaisir de vous reparler.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Maintenant, le Festival international du film sur le handicap, deuxième édition de l'événement Cinéma et handicap du 15 au 20 septembre. C'est la deuxième édition du FIFH qui voit de nouveaux partenaires arriver tels que Handicap International et un record avec plus de 45 pays qui ont envoyé des productions cinématographiques pour participer au FIFH, l'événement Cinéma et handicap de l'année. L'enthousiasme et la magie du cinéma sont toujours au rendez-vous, alors ne manquez pas cette nouvelle édition. Nous donnons la parole à Katia Martin-Maresco, fondatrice du festival « Personne n'est parfait ». C'est, si vous le voulez bien, sous le patronage de cette dernière réplique culte de Certains l'aiment chaud que nous aimerions placer le FIFH édition 2017. L'engouement qu'a suscité la première édition a bien démontré l'urgence et l'utilité de notre festival et nous a fait oublier les difficultés qu'il a fallu surmonter pour sa mise en œuvre. Cette deuxième édition sera une nouvelle opportunité pour qui aurait encore des préjugés, des appréhensions, voire des peurs vis-à-vis du handicap, des handicaps à venir s'ouvrir à ce monde parallèle qu'en réalité nous partageons. Nous vous invitons à découvrir avec nous de vraies pépites cinématographiques. Quelque chose comme tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le handicap sans jamais oser le demander, comme aurait pu dire Woody Allen, qui a aussi tourné Hollywood Ending, mettant en scène un réalisateur provisoirement aveugle. Comme vous pouvez le constater, nous aimons prendre des références dans le cinéma parce que nous faisons avant tout un festival de cinéma, pas un colloque médical. Avec ces films, vous traverserez, nous l'espérons, des émotions toutes différentes, toutes surprenantes, cinéma et handicap, oui, mais aussi de la tendresse, de l'humour, des vies d'exception, de la beauté, et derrière les caméras, des réalisateurs du monde entier apportant chacun sa vision tant personnelle que culturelle, dit Katia Martin-Maresco, fondatrice et directrice du FIFH. Allons-y avec quelques rafales. Pour la première fois depuis 2004, une journée Terry Fox pour la recherche sur le cancer se tiendra à Saint-Hubert le 17 septembre à 10h30. Petits et grands sont invités à prendre part à cet événement familial en marchant ou en courant au parc de la Cité afin de recueillir des fonds. L'entreprise d'économie sociale Certex a pris en charge de façon bénévole l'organisation de cette journée. Les participants peuvent recueillir de l'argent en ligne www.journeeterryfox.org en récoltant des promesses de dons auprès de leur famille et amis ou en remettant un don sur place pendant la journée Terry Fox. Lorsque la Fondation Terry Fox nous a approchés pour nous proposer d'être l'organisateur de la journée à Saint-Hubert, nous avons tout de suite accepté ce défi, mentionne le directeur général de Certex, Stéphane Guérard. Nous avons été très touchés par cette demande car la santé en général et celle de nos employés en particulier fait partie de nos valeurs premières. En tant qu'entreprise d'économie sociale, l'une de nos missions est de fournir un emploi stable et valorisant à une centaine de personnes handicapées, poursuit-il. De plus, Certex redonne annuellement à la communauté de diverses façons, donc la décision n'a pas été trop difficile à prendre et nous avons accepté avec plaisir ce défi. D'ailleurs, nous invitons la population de Saint-Hubert à venir soutenir un de nos employés, Frédéric Thibault-Poitras, qui fera un parcours de 20 km avec son vélo-fauteuil roulant. pour devenir bénévole, qc@terryfox.org, numéro téléphone 1-888-836-9786. Alors, je répète le numéro 1-888-836-9786 pour être bénévole. Et vous avez aussi tous les renseignements, journée-terryfox.org, le dimanche 17 septembre. Conférence gratuite maintenant pour les membres d'Autisme Montérégie. Diminuer l'anxiété chez l'enfant TSA, trouble du spectre de l'autisme, lors de la rentrée scolaire. Cette conférence animée par Karine Massé, ergothérapeute au Centre de réadaptation Caroline Mainville, permettra aux familles de reconnaître les signes et les causes de l'anxiété en contexte scolaire. Plusieurs trucs concrets pour aider l'enfant à gérer son anxiété et favoriser son autonomie dans la vie de tous les jours y seront présentés. Merci au CRCM pour leur généreuse contribution. Alors, c'est le jeudi 28 septembre à 19h au Centre de réadaptation Caroline Mainville, le CRCM, gratuit pour les membres d'Autisme Montérégie et $25 pour les non-membres. Inscription www.autismemontérégie.org/événements/conférences. Yoga pour proches aidantes, organisme, c'est le Y des femmes de Montréal. Le yoga vous permet de relaxer et de profiter d'un moment de répit auprès de gens qui vivent la même chose que vous. Le cours propose un yoga simple et doux et les positions peuvent être adaptées aux femmes dont les capacités physiques sont limitées. Toutes nos activités et tous nos services sont gratuits. Le soutien aux proches aidants du Y des femmes de Montréal est un endroit où trouver des services d'aide et des activités de loisirs adaptées aux besoins des femmes proches aidantes d'aînés. Il est également possible d'organiser du répit soutenu et organisé par le Y des femmes de Montréal afin que les proches aidantes assistent à nos activités ou services. Inscription requise, je vous donne le numéro de téléphone 514-866-9941, 514-866-9941, poste 226. Site Internet proches aidantes à commercial ydesfemmesmtl.org. Ça se passe donc samedi 16 septembre de 10h à 11h30, yoga pour proches aidantes. C'est tout pour les paractualités d'aujourd'hui en ce 14 septembre 2017. On se retrouve lundi. Demain, ce sera la nouvelle émission de M. Kevin Breton qui s'appelle « Au signal ». Merci à l'équipe, Sylvie Rivard à la recherche et Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis, à très bientôt, lundi prochain.